وفي عيشة راضية.
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Le coup. Qu'est-ce que le coup? Et qui te dira de ce qu'est le coup? Le jour où les gens seront comme papillons éparpillés et les montagnes comme laine cardée, alors, quant à celui dont les balances seront lourdes, alors, il sera dans une vie agréable. Et quant à celui dont les balances seront légères, alors sa destination est une fosse. Et que sais-tu de ce qu'elle est? Un feu ardent.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. بسم الله الرحمن الرحیم. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le mardi 9 Khordad 1402 du calendrier iranien, 30 mai 2023. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information. Ensuite, nous vous présenterons notre commentaire politique. Imposer des conditions de résistance à Israël est une grande victoire durable, a déclaré le président de l'IRIP. De succès diplomatique pour l'Iran dans la coopération avec l'AIEA. Un colon israélien a été abattu près de la ville de Toulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Et deux bâtiments touchés par des drones à Moscou, aucune victime n'est à déplorer. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran et l'Agence internationale de l'énergie atomique ont résolu un problème technique lié à un site iranien. Les diplomates iraniens ont réussi à clore avec l'Agence internationale de l'énergie atomique deux dossiers problématiques. La question de la particule enrichie à 83% retrouvée dans le site Fordo et le site d'Abadé dans la province du Fars. Des sources bien informées ont rapporté que deux nouveaux succès diplomatiques ont été obtenus lors des pourparlers et les interactions entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et la République islamique d'Iran. Cet événement positif intervient alors que le régime sioniste ne cesse d'attiser les tensions entre l'Iran et l'AIEA et de proférer des accusations sans fondement à l'approche de la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de l'AIEA. L'Iran a demandé à plusieurs reprises à l'organe observateur des Nations Unies d'adopter une approche professionnelle et technique de ses activités nucléaires. Téhéran a également appelé l'AIEA à éviter de politiser les questions sous les pressions des puissances occidentales et du régime israélien. Le président de la radio-télévision iranienne, Peyman Jebelli, a appelé les assemblées culturelles du Front de la Résistance à lancer un nouvel élan pour exposer les différentes dimensions de la résistance courageuse des Palestiniens contre le régime sioniste. Peyman Jebelli a fait cette proposition lors d'une rencontre avec le secrétaire général du mouvement de résistance palestinien djihad islamique, Ziad al-Nakhala, au Liban. Le président de l'IRIB a souligné les récentes victoires héroïques du peuple palestinien qui, selon lui, ont révélé la vulnérabilité croissante du régime israélien. Le commentaire d'aujourd'hui a été consacré à ce sujet. Les forces israéliennes ont blessé au moins 46 Palestiniens au cours de leur dernière raid sur la ville occupée de Naplouse, en Cisjordanie. L'armée du régime sioniste a pris d'assaut le camp de réfugiés d'Askar lors du raid. La cible principale étaient les maisons de deux Palestiniens qui ont été tués par les forces israéliennes au début du mois, prétendument au cours d'opérations anti-israéliennes. Les soldats israéliens ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les Palestiniens qui les ont affrontés, provoquant des blessures. Naplouse a connu une intensification de la répression par l'armée du régime israélien au cours des dernières semaines. C'est dans le contexte des raids israéliens presque quotidiens à travers toute la Cisjordanie. Un colon israélien a été abattu près de la ville de Tul Karem, dans le nord de la Cisjordanie. Selon les médias israéliens, l'homme a été abattu à l'entrée de la colonie Hermesh. La brigade des martyrs d'Al-Aqsa, groupe de résistance palestinien lié au Fatah, a revendiqué la responsabilité de la fusillade. Le groupe a publié une déclaration pour annoncer que les opérations futures ne seront que le début d'une riposte pour venger leurs martyrs. Ces derniers mois, les colons israéliens ont accru leur brutalité contre les civils palestiniens en Cisjordanie occupée, tuant et blessant de nombreux habitants et incendiant des maisons. Très tôt dans la matinée du mardi 30 mai, la capitale russe a été la cible d'une rare attaque de drones. Les drones ont causé des dommages que le maire de Moscou a qualifiés de mineurs, frappant des bâtiments sans faire de victimes humaines. Des drones ont attaqué la capitale russe mardi matin 30 mai, endommageant plusieurs bâtiments, a déclaré le maire de Moscou. Pour des raisons de sécurité, Lors des travaux des services de secours, des mesures ont été prises pour évacuer les habitants de plusieurs entrées de deux maisons qui ont été touchées par un drone. Immédiatement après la fin des travaux des services spéciaux, les habitants pourront regagner leurs appartements, a écrit le maire de Moscou. Le ministère russe de la Défense a déclaré que l'Ukraine a attaqué la capitale russe avec 8 véhicules aériens sans pilote tôt mardi. Tous les drones ont été abattus. Des drones ont touché deux immeubles résidentiels au sud de Moscou. Personne n'a été blessé, a déclaré à Sputnik un porte-parole des services d'urgence. La République d'Azerbaïdjan accueille le président israélien et sa délégation de haut rang, malgré les réactions de l'opinion publique dans ce pays du sud du Caucase contre la normalisation des liens avec le régime d'occupation. Isaac Herzog a atterri à Bakou et a reçu mardi un accueil officiel du premier vice-premier ministre azerbaïdjanais, et Herzog a rencontré le président Ilham Aliyev, dont le pays a ouvert son ambassade à Tel Aviv au mois de mars. La nation caucasienne a également nommé son tout nouveau ambassadeur à Tel Aviv en décembre de l'année dernière. Mais les gens sont en colère contre les relations diplomatiques de Bakou avec le régime israélien. Les Azerbaïdjanais ne sont pas les seuls à rejeter la décision de leur gouvernement de normaliser les relations avec Israël. Les citoyens de plusieurs États arabes ont également exprimé leur opposition à un accord de normalisation négocié par les États-Unis entre leurs dirigeants et le régime israélien. La normalisation est une trahison totale de la cause palestinienne et une action diplomatique impardonnable. C'est un coup de couteau dans le dos des Palestiniens et un service rendu gratuitement à l'occupation. Et un jour noir pour le peuple et la cause de la Palestine. C'est par ces mots qu'ont réagi plusieurs pays musulmans et les Palestiniens à ces accords controversés. Et enfin, la France a menacé d'interdire Twitter de l'Union européenne si le réseau de médias sociaux américains ne respecte pas les nouvelles réglementations en matière de désinformation dans le bloc européen. À partir du 25 août, de nouvelles règles européennes vont s'appliquer à certaines plateformes numériques pour lutter notamment contre la désinformation. Twitter sera banni de l'Union européenne s'il ne se conforme pas à nos règles, assure lundi 29 mai sur France Info le ministre chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot. Le réseau social, propriété du milliardaire Elon Musk, vient d'annoncer qu'il allait se retirer du Code européen de bonnes pratiques contre la désinformation en ligne lancé en 2018. Mais le ministre assure que le géant numérique ne pourra pas se substituer aux nouvelles règles européennes qui vont s'appliquer à partir du 25 août 2023. Chers auditeurs, c'est la fin de notre journal. Restez à l'écoute de notre commentaire politique. Le président de la radio-télévision de la République islamique d'Iran, IRIB, a félicité les groupes de résistance palestiniens pour leur victoire retentissante dans le récent conflit avec le régime sioniste qui n'a pris fin qu'après qu'Israël a accepté leurs conditions. Peyman Djebeli a fait ses remarques lors d'une réunion lundi 29 mai avec le secrétaire général du mouvement du djihad islamique de la Palestine, Ziad Nakhala, à Beyrouth, capitale du Liban. Le fait que les groupes de résistance palestiniens ont réussi à imposer leurs conditions pour un cessez-le-feu au régime sioniste était une grande victoire durable et exemplaire, a déclaré M. Djebeli. Le président de l'IRIB faisait référence à un récent accord de cessez-le-feu conclu entre les groupes palestiniens basés dans la bande de Gaza et le régime israélien après 5 jours d'assaut impitoyable du régime de Tel Aviv sur le territoire côtier. Le conflit a été marqué par de puissants barrages de missiles du djihad islamique contre les colonies israéliennes et d'autres villes des territoires occupés qui ont atteint Tel Aviv. Ailleurs dans ses remarques, Peyman Djebeli a déclaré à Nakhala : Vos victoires remarquables sont multipliées de jour en jour, tandis qu'au contraire, la faiblesse du régime israélien devient plus évidente chaque jour qui passe. Élaborant sur la résistance de longue date de la nation iranienne face à un large éventail de complots des ennemis, le président de l'IRIB a déclaré « Chaque goutte de sang des martyrs garantit que la révolution islamique atteindra certainement ses objectifs. » Le président de l'IRIB a noté qu'il était nécessaire de lancer un nouveau mouvement qui pourrait être surnommé le mouvement pour créer des récits afin de délimiter divers aspects de la résistance des Palestiniens contre les sionistes. Peyman Djebeli a noté que cette question devait être placée en tête de l'agenda des forums culturels de l'axe de résistance. Ziad Nakhala, pour sa part, a déclaré qu'à chaque combat contre le régime sioniste, la résistance palestinienne a bénéficié du soutien indéfectible de la République islamique d'Iran. Il suffit de comparer notre situation il y a 20 ou 30 ans avec aujourd'hui. Comment nous sommes-nous comportés à ce moment-là et quelle est notre position aujourd'hui? Tout cela a été rendu possible grâce au soutien de la République islamique d'Iran à la résistance palestinienne, a déclaré Ziad Nakhala. Le secrétaire général du mouvement du djihad islamique de la Palestine a déclaré « Les équations sur le champ de bataille ont maintenant totalement changé en faveur de la résistance et l'illusion de l'invincibilité d'Israël a été brisée. Nous continuerons sur cette voie jusqu'à la victoire complète sur le régime sioniste », a souligné Ziad Nakhala. Accompagné d'Ahmad Nourouzi, directeur du service mondial de l'IRIB, Peyman Djebeli est arrivé vendredi à Beyrouth, la capitale libanaise. Peyman Djebeli, directeur de l'IRIB, a jusqu'à présent rencontré divers responsables libanais, dont le secrétaire général du mouvement de la résistance libanaise, Hezbollah, Seyed Hassan Nasrallah, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, et le ministre de la Culture, Mohammad Al-Murtada.
Bonjour à tous, bienvenue dans les studios de Presse TV dans la capitale iranienne, Téhéran. Le sujet du jour étant le continent africain et de plus en plus son désir de se séparer du monde occidental ou en tout cas d'aller voir ailleurs. C'est le sujet donc de notre débat. Comme le veut le format débat, tout d'abord nous allons commencer par un reportage qui résumera d'une certaine manière la situation et par la suite nous ferons venir deux de nos invités. Aujourd'hui, nos deux invités sont Jean-Maxime Cornet, analyste politique, et Luc Michel, géopoliticien et panafricanisme. Je vous propose donc à l'heure actuelle de regarder notre reportage et on se retrouve juste après.
Est ressaisie aux côtés d'Arès et qu'elle est de plus en plus indépendante et puissante, la panique se fait totalement sentir dans le camp occidental. Moscou a annoncé récemment qu'elle continuera à soutenir le Mali dans sa lutte contre le terrorisme et contribuera encore à améliorer l'efficacité de l'armée. De plus, ce sentiment anti-occupation et souverainisme est tellement fort au Mali que les missions occidentales au Mali ne sont plus à l'abri de la colère des citoyens. Paris n'a pas le choix et c'est précisément les Africains qui ne lui laissent plus le choix. À l'axe USA-OTAN, la panique est à tel point que désormais les camps militaires russes sont pris pour cible. Mais c'est peine perdue. L'Occident a perdu, les peuples maliens et sahéliens ont fait leur choix et leur décision est irrémédiable. Les Occidentaux doivent quitter le Mali et le continent au plus vite. En effet, le prochain sommet Russie-Afrique sera organisé à Saint-Pétersbourg, prévu du 26 au 29 juillet 2023. Moscou a envoyé des invitations à tous les pays du continent. Nous fermons la porte à personne, au contraire des États-Unis qui se montrent souvent plus sélectifs pour leur traditionnel sommet États-Unis-Afrique. Des dizaines de pays ont d'ores et déjà déclaré qu'ils se rendaient au sommet Russie-Afrique. À noter en mai auprès du média russe Sputnik, l'ambassadeur russe Oleg Ozarov. Les confirmations continuent de se faire actuellement et du continent africain se sont plaints de pressions occidentales tentant de les dissuader de participer au prochain sommet Russie-Afrique, a déclaré Nikolaï Patrushev, secrétaire du Conseil de sécurité de Russie. De plus, le continent se tourne vers Moscou pour se protéger des révolutions de couleurs.
Nous revoilà donc sur le plateau. Donc d'abord, la venue de nos invités. On commence par Jean-Maxime Cornet, analyste politique. Bonjour, monsieur Corneille.
Bonjour à vous. Bonjour, Téhéran depuis Versailles.
Ravi de vous avoir avec nous sur les plateaux de Presse TV. Notre deuxième invité, vous le connaissez, monsieur Luc Michel, souvent pro-panafricaniste. Bonjour, monsieur Luc Michel. Ravi de vous avoir avec nous.
Moi aussi, ravi de vous retrouver. Bonjour à votre équipe et à votre invité.
C'est gentil, merci. Alors, le sujet du jour est donc l'Afrique, le continent africain. Et de plus en plus, des informations nous viennent du continent montrant une séparation, une volonté d'aller revoir ailleurs, de faire de nouveaux ponts au niveau de leur diplomatie. Ça a commencé avec le Burkina Faso et le Mali. Et étrangement, la CDAO n'a pas réellement et très fortement puni ces deux pays. Monsieur Luc Michel, on commence par vous. Est-ce un signe de montrer que plusieurs pays africains, membres de la CDAO, sont tout à fait dans la volonté de faire comme le Burkina Faso ou le Mali, peut-être en moins fort, mais de faire d'autres relations diplomatiques avec d'autres pays, voire d'autres continents?
On est dans un autre cycle géopolitique. Et les Africains se détournent de l'Occident. Hier, la BBC monte à lancer une grosse campagne contre la Russie en Afrique. Mais elle reconnaît que la Russie a chassé la France d'Afrique et qu'elle est en train de faire avec les Occidentaux. Ce qui se passe actuellement, c'est que c'est un phénomène qui concerne pas seulement l'ancienne Afrique française ou le Sahel, mais qui concerne toute l'Afrique, comme le reconnaît la BBC. C'est donc, je pense, la perte définitive de la France par les Occidentaux. Et de l'Afrique, bien entendu. Ils ont mené un combat désespéré, notamment les Américains, ils n'ont rien fait, parce que le sentiment anti-occidental est puissant.
Merci, Monsieur Luc Michel. Monsieur Corneille, alors vous êtes d'accord, le Burkina Faso a-t-il et le Mali ont-ils montré la voie aux autres pays africains en disant c'est possible de d'être moins dépendant des pays anciennement colonisatrices. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue?
Pardon, la question est pour moi?
Oui, pour vous, Monsieur Corneille.
Il y a une coupure, excusez-moi.
D'accord.
Alors, oui, l'indépendance, oui, la question c'est l'indépendance de quoi? Voilà. En réalité, la France ayant récemment pris parti pour globalement les intérêts qui historiquement détruisaient les intérêts français en Afrique, eh bien à présent, la France ayant été soumise, l'Afrique est en train de s'émanciper, non pas réellement de la France, mais elle est en train de s'émanciper d'un mondialisme financier d'origine historiquement anglo-américano-israélienne qui a globalement causé de nombreux troubles en Afrique et contre lequel historiquement la France-Afrique fut un rempart pendant bien longtemps. Ce qui est intéressant avec M. Luc Michel, c'est que, historiquement, la Belgique comme la France ont été les deux pays francophones qui ont spécifiquement été ciblés en Afrique. Et à présent qu'aujourd'hui, la Belgique comme la France sont soumis, et récemment la France depuis 2007, et surtout avec Macron, c'est encore plus visible, ça a vraiment été une continuité, hein. Sarkozy, Hollande, Macron. Et bien à présent, donc, en effet, il y a un changement de cycle, c'est-à-dire que les pays africains sont encouragés aujourd'hui par l'émergence d'un bloc nouveau eurasiatique qui en réalité va faire ce que la France antérieurement faisait. C'est-à-dire que la logique bloc contre bloc, avant c'était les anglo-américano-israéliens contre la France et il y avait parallèlement l'Union soviétique qui avait d'autres intérêts et des types de pénétration idéologique comme d'ailleurs la Chine maoïste. Or aujourd'hui la Russie comme la Chine sont en train de sortir de cela. La Chine en elle-même étant également en train de sortir du communisme, même si c'est un peu plus discret. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Russie et la Chine ont une masse critique qu'antérieurement la France n'avait pas en Afrique. La France a été seule à s'opposer à tous ses intérêts et elle a été broyée, avant tout par la suite de trahison intérieure en France et de trahison vis-à-vis de nos anciens alliés, car par bien des égards, nous les protégions contre justement ce qu'on appelle aujourd'hui les révolutions de couleur. Eh bien aujourd'hui, la France ayant pris le parti donc des subvertisseurs historiques de l'Afrique, il est une bonne chose, il est naturel que les Africains prennent le parti de la partie adverse, à une époque où justement la Russie et la Chine ont une action en réalité plus saine en Afrique. Cela ne veut pas non plus dire que ce soit non plus des enfants de cœur, mais encore une fois, c'est une lutte pour des intérêts. Rappelez-vous que nous combattons pour des intérêts stratégiques avant tout, donc des matières premières stratégiques, ou une certaine rentabilité, mais certainement pas pour des idéologies. Les idéologies ne font qu'habiller des guerres d'intérêts en Afrique. Voilà pour ma première réponse.
Merci, monsieur Corneille. Monsieur Luc Michel, d'habitude, je n'aime pas demander ce que vous en pensez, mais allez-y, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos tenus par monsieur Corneille et est-ce que vous voulez rajouter quelque chose?
La tentative de dédouaner la France-Afrique, la France qui est le nord de l'Afrique, je la trouve scandaleuse. L'Afrique a légitimement perdu l'Afrique comme représentante de l'Occident. Secondement, je n'ai de Belge que mon passeport. Historiquement, je m'attiens au courant pro-russe que je soutiens à Moscou depuis 50 ans. Me voir qualifié de Belge est une insulte.
Merci, Monsieur Michel. Alors, Monsieur Corneille, selon vous, que pensez-vous de ce qui va arriver pour le sommet proposé par la Russie aux différents pays du continent africain? Nous avions vu il y a quelques mois déjà une participation, mais elle n'était pas unanime. Est-ce qu'il pourrait y avoir une participation plus unanime sur toute l'Afrique concernant donc ce meeting qui aura lieu donc en Russie?
Alors, globalement, comprenez qu'il s'agit d'un glissement, dont l'élément déclencheur a surtout été la date de l'intervention russe en Syrie, c'est-à-dire septembre 2015, à partir de laquelle j'avais dit à l'époque qu'il y allait avoir en réalité une diplomatie qui allait traduire le sort des armes d'une façon exactement parallèle à la façon dont les printemps arabes avaient été artificiellement propagés depuis les supplétifs des américano-anglo-israéliens, les supplétifs localisés au Moyen-Orient, c'est-à-dire historiquement les États du monde oriental qui avaient promu le djihadisme historiquement sur injonction anglo-américaine. Rappelez-vous par exemple que l'Arabie saoudite, grande promotrice du wahhabisme, avec des ramifications dans tout le monde occidental, dans tout le monde, pardon, musulman, jusqu'au tréfonds de l'Afrique, était historiquement un otage de la realpolitik pétrolière britannique historiquement, puis anglo-américaine, au gré d'une lutte d'influence. On oublie bien souvent que les anglo-américains étaient avant tout des rivaux en matière pétrolière, et que c'est pour cette raison qu'a historiquement été créé un terrorisme artificiel que la France fut le premier État à avoir occidental à avoir dénoncé. C'était dans 1930, le turban vert, Xavier de Hauteclocque, cousin du maréchal Leclerc, c'était un agent du renseignement français qui dénonçait la façon dont les Britanniques formaient artificiellement un terrorisme wahhabite, prétendument musulman, qui avaient pour but de promouvoir leurs intérêts dans l'intégralité du monde musulman. Par analogie, il s'est passé exactement la même chose à partir de 2015, en réalité depuis le printemps arabe de 2000, à partir de 2011, pour la date que nous connaissons. On pourrait même dater ça depuis le 11 septembre 2001. Mais à partir de cette intervention russe et du discret soutien de la Chine au Moyen-Orient, il y a eu un retournement, c'est-à-dire un ensemble de prises de conscience de la part de pays qui historiquement étaient ces promoteurs du djihadisme, mais en commandite, non pas pour leurs intérêts propres, mais pour, comme d'habitude, les anglo-américano-israéliens. C'est par prise de conscience avant tout commandée par le sort des armes que j'avais dit à l'époque en 2015 que l'Arabie saoudite allait devoir comprendre, sinon elle serait elle aussi sacrifiée. Car rappelez-vous que l'agenda de l'État islamique, c'était aussi de cibler à terme l'Arabie saoudite et en réalité tout le Moyen-Orient. Et donc, aujourd'hui, dans ce soutien nouveau de l'Afrique à la Russie, nous avons un glissement et nous avons globalement un instantané d'un mouvement qui est en cours, qui est évolutif par définition. Mais tout est à croire, tout porte à croire que les pays africains vont graduellement, en effet, rejoindre ce nouveau front commun emmené aujourd'hui par la Russie, qui en réalité reprend, au Moyen-Orient comme en Afrique, le rôle qui historiquement était celui de la France. C'était déjà vrai en partie pour la Chine-Afrique. Bien souvent, les infrastructures qui avaient été créées par les Chinois ou pardon, par les Belges ou par les Français ont été remises en œuvre par les Chinois par bien des égards. C'est-à-dire que la Chine et la Russie, avec une nouvelle masse critique plus puissante que la France antérieurement, reprennent des logiques, d'anciennes logiques de développement, notamment franco-belge, quoi qu'en pense mon interlocuteur, Monsieur Luc Michel. S'il n'est pas en paix avec sa nationalité, ce n'est pas mon problème. La Belgique n'a jamais été qu'un État factice, mais c'est un autre sujet. Par contre, donc pour votre réponse, cette rotation en réalité, ce renversement géopolitique est en cours, et donc tout porte à croire que davantage de pays africains rejoindront le parti de la Russie. Voilà pour ma réponse.
Merci, Monsieur Corneille. Monsieur Luc Michel, il semblait normalement avoir une plus grande guerre en Russie, en Ukraine pour le printemps, voire en période plus chaude. Il n'y a toujours pas eu de contre-attaque de la part de l'Ukraine. Est-ce également un signe pour les pays africains de se rapprocher plus de la Russie, voyant que la situation ukrainienne est plus en faveur de la Russie à l'heure actuelle?
Aussi bien en Ukraine qu'au Mali, les Africains voient l'efficacité de la Russie qui a été démontrée en Centrafrique précédemment. Il faut constater que derrière la propagande de l'OTAN, l'Ukraine est en train de se montrer. Il y a 3 jours, le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Zaluzhny, a été abattu par l'artillerie de Wagner. Il est à l'agonie dans un hôpital de Kiev. Voilà donc, dans ces conditions, parler d'une contre-offensive, c'est purement de la propagande noire comme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui est en route, c'est que les Russes, qui sont intervenus en Afrique à la suite du printemps africain, c'est-à-dire en août 2015, dans un projet géopolitique, la BBC y a expliqué ce projet avec raison. C'est la constitution d'un bloc africain d'États anti-impérialité, anti-occidentaux. Et vouloir nous faire croire que la France suit de cette position par rapport, c'est de ne pas savoir ce qu'était la France-Afrique, ni ce qu'était le colonialisme français au Liban ou en Syrie. La France est un déchet géopolitique et c'est un lieu pour des procédés idiots qui ont été imposés au peuple du monde.
Merci, Monsieur Luc-Michel. Monsieur Corneille, on voit ces derniers temps, je ne vais pas répliquer sur Michel, vous avez déjà donné votre opinion sur le sujet. On va plutôt voir comment ces derniers temps, le continent africain se restructure, parce qu'il y a une restructuration rien qu'au niveau des routes en Afrique, des projets manufacturiers en Afrique, entre pays africains, par notamment entre l'Égypte et plusieurs pays africains. On pense à l'Algérie, on pense même au Maroc, qui a plus d'associations avec la Côte d'Ivoire. Les ports qui se sont également, les ports africains qui commencent également à s'agrandir. Est-ce que l'Afrique, vous avez dit que la Russie va jouer le rôle de la France historiquement. Mais est-ce que c'est pas l'Afrique, même si va choisir un peu plus la Russie, est-ce que l'Afrique va prendre ce temps à l'heure actuelle pour se restructurer? Et peut-être tout simplement sortir, quels que soient les jougs, que ce soit le joug occidental ou que ce soit le joug d'Asie. Est-ce que vous pensez que c'est du domaine du possible de la part du continent africain? Et est-ce que c'est dans sa volonté, selon vous?
Alors, que cela soit dans sa volonté, de fait, non. Ça serait sa volonté si vraiment des prises de conscience africaines étaient réalisées. Les Africains, pour l'instant, sont en train de prendre conscience, surtout du fait que les Chinois seront autrement plus pragmatiques que les Français. Les Camerounais, aujourd'hui, s'en plaignent. Ils sont en train de réaliser qu'avant, les Français les payaient mieux. Et oui, parce que c'était ça, la France-Afrique. C'était payer et c'était créer non pas uniquement des amitiés et des alliances, mais créer également des zones de développement concentriques. Est-ce que M. Luc Michel sait, par exemple, que la colonisation dans l'Afrique du Nord s'opérait par les colonisés? En réalité, Anton Zischka l'avait prédit en 1952. Nous allons avoir, et de fait nous avons, le retour des vieilles constances stratégiques telles qu'elles sont globalement en place depuis des millénaires, mais avec des moyens modernes. En revanche, ces moyens modernes, malheureusement, les Africains ont ils savent les utiliser, ils ont énormément de mal à les créer. Sans doute aussi parce que beaucoup d'Africains disent qu'ils manquent. Ce sont les Africains qui sont leurs meilleurs critiques en réalité, les meilleurs critiques d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a bien des prises de conscience et il y a bien de la fierté un peu déplacée de la part de beaucoup d'Africains qui en réalité ne prennent pas beaucoup leçon de la difficulté d'organisation des sociétés africaines, on va dire, à l'époque moderne. On le voit notamment au Nigeria. Mais ça, ce sont des questions africaines. Le sujet, c'est qu'en effet, l'Afrique va, avec ou sans la France-Afrique, rester ce qu'elle est, c'est-à-dire un enjeu.
Excusez-moi de vous interrompre brutalement, mais vous parlez de la manière dont les Africains perçoivent leur propre système, mais ce n'est pas eux qui ont mis en place le système, c'est un système qui est étranger à leur propre culture. Beaucoup d'historiens ont critiqué le fait même des frontières, ce sont des vieux sujets, hein. Les frontières africaines ne respectent pas le système tribal, ça a provoqué certaines réactions tribales qu'on connaît encore aujourd'hui, les réactions et les interactions par rapport à ça. Vous remettez en cause la pensée africaine, mais beaucoup disent que ce n'est pas comme ça qu'il faut percevoir la chose. C'est un système occidental qui a été installé et imposé en Afrique, et après l'Africain a dû faire avec, mais c'était comme une langue étrangère et son système ne correspond pas à son besoin. Est-ce que vous ne pensez pas que vos paroles sont en contradiction avec ça?
Dual, à la fois oui et non, parce qu'il y a plusieurs sujets superposés. Les Occidentaux ont en effet importé, pour des raisons tantôt de maladresse, tantôt de calcul, des frontières complètement artificielles. Mais il y a eu également un irénisme occidental débilitant pour l'Afrique. J'entends des bonnes volontés artificiellement importées, notamment la France. C'est-à-dire lorsque l'on a voulu, par exemple, instaurer la démocratie, soi-disant parce que les États modernes doivent nécessairement être démocratiques, ou alors que l'on superpose ceci avec d'anciennes logiques de lutte entre certaines peuplades pastorales, certaines peuplades agricoles, les unes étant militaires, les autres ne l'étant pas ou l'étant moins, ces conflits préexistaient avant la France et que bien souvent, par exemple, là pour l'exemple français qui est vraiment important dans une grande partie de l'Afrique, nous avons importé, par bonne volonté, les germes de conflits sans fin, c'est absolument juste. De là à dire que nous ayons importé tous les problèmes en Afrique, c'est totalement faux, mais globalement, les conséquences de la colonisation et surtout des bonnes volontés idéologiques, bien souvent largement problématiques, ont créé en effet plus de problèmes qu'elles n'en ont résolu, c'est absolument clair. Mais enfin, c'est aussi
excusez-moi,
parce
j'ai envie de vous interrompre deux secondes sur la situation en Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire a eu des problèmes politiques extrêmement importants, et ce sont des faits prouvés par des journalistes français qui se sont intéressés au sujet, comme quoi le conflit Ouattara-Gbagbo a été directement initié par les militaires français.
De quelle époque parlez-vous exactement ?
Je parle de l'époque où Gbagbo s'est fait arrêter et s'est fait kidnapper chez lui pour se retrouver en ce pays.
Nous étions à l'époque Sarkozy, n'est-ce pas ?
Je crois, oui, si je ne me trompe pas. Il y avait Fillon en ministre.
Bien évidemment, nous étions à l'époque Sarkozy. Sarkozy a détruit les intérêts, ce qu'il restait des intérêts france-africains. Je fais une incise rapide sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était la vitrine de la présence française en Afrique de l'Ouest. C'était le poumon économique de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi la Côte d'Ivoire a-t-elle été détruite par nos soi-disant alliés anglo-américano-israéliens ? Pour plusieurs raisons. Avant tout pour les matières premières stratégiques, parce que les intermédiaires du cacao voulaient faire leur grande manœuvre et compromettre la Côte d'Ivoire, mais également parce que les Américains voulaient le pétrole au large de la Côte d'Ivoire, et aussi parce que nos amis israéliens voulaient remplacer les commerçants libanais qui approvisionnaient le Hezbollah. À partir de cette triple logique, la France a été une traître aux intérêts de nos alliés de Côte d'Ivoire en 1999, en refusant d'intervenir dans le coup d'État à l'époque qui a démis Conan Bédié, je crois. En 1999, lorsque la France a refusé de protéger la Côte d'Ivoire, ça a été le début de la fin. La France, au contraire, a gelé le conflit et a imposé à la Côte d'Ivoire, un État allié, de supporter la partition de son pays avec des groupes rebelles financés par les intérêts anglo-américano-israéliens plus les firmes multinationales du cacao. Ça a été une situation dans laquelle l'armée française est passée pour une idiote de bout en bout. Les Israéliens s'en sont donnés à cœur joie. Ils ont mis leurs snipers pour tirer sur les uns, sur les autres, pour faire croire que c'était la France qui avait causé problème là-bas. Mais au résultat, en effet, à l'époque Sarkozy, nous avons définitivement achevé la Côte d'Ivoire telle qu'elle était l'allié france-africain de la France. Et c'est une pure trahison à la fois des intérêts français, des intérêts de la Côte d'Ivoire, ivoirien, et de la réalité de ce qu'était la France-Afrique auparavant. Et c'est Merci. Un grand drame, j'en conviens.
Merci, Monsieur Corneille. On pourrait parler du continent africain pendant longtemps, parce que dans le continent africain, il y a beaucoup de pays avec différentes relations avec le monde occidental. Je vous remercie, Monsieur Corneille, pour votre participation. J'espère vous avoir pour un autre débat, notamment peut-être pour l'Afrique encore une fois. Monsieur Michel, toujours un plaisir de vous avoir en tant qu'expert. C'est ici que le débat se finit pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, voir notre débat sur notre site et nos réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt pour un autre sujet du débat ici dans la capitale iranienne, Téhéran. Au revoir.
Histoire des sciences en Iran. L'année 2022 a été nommée l'année internationale des sciences fondamentales pour le développement durable et est célébrée dans le monde entier. Dans ce programme, nous allons essayer de vous familiariser avec le brillant passé des sciences fondamentales en Iran et les figures de proue dans ce domaine. Ce programme vise à faire connaître les acquis uniques d'une nation qui a resté inconnue malgré ses innombrables services à l'humanité. Bonjour, chers auditeurs. Dans les programmes précédents, nous avons parlé des philosophes iraniens des siècles passés. Dans cette émission, nous vous parlerons de l'une des figures marquantes de la philosophie en Iran d'aujourd'hui, Gholam Hossein Dinani. Merci de nous accompagner pendant ce programme. Gholam Hossein Dinani est né le 26 décembre 1934 dans le village de Dinan de Khomeinichahr, situé dans la province d'Ispahan, au centre de l'Iran. Après avoir fait ses études primaires dans son village, Il étudie les sciences religieuses à l'école théologique de Nîmes-en-Var à Ispahan. Une fois ses cours en philosophie terminés, il entre à l'école théologique de Rome en 1955 et tout en étudiant les sciences religieuses auprès des grandes sources d'imitation chiite, il se met également à enrichir ses connaissances philosophiques auprès du grand théologien Alain Tabataba'i. De même, il a été présent dans les discussions philosophiques du grand philosophe français Henri Corbin et d'Alain Tabataba'i. C'est à Ispahan qu'il entame ses études philosophiques auprès du maître Ziaupour et les a complétées auprès du grand philosophe Alain Tabataba'i, si bien qu'il devient l'un des élèves les plus distingués de ce penseur musulman. À la mort de son grand maître, l'ayatollah Burujerdi, il part pour la capitale, Téhéran, où il commence ses études à l'université de Téhéran. Une fois ses études terminées, il collabore avec le ministère iranien de la culture et de l'éducation de l'époque. Il poursuit ses études en vue de l'obtention d'un doctorat. En 1973, il soutient sa thèse en philosophie. Gholam Hossein Dinani est l'auteur de nombreux écrits dans le domaine de la philosophie, dans lesquels il critiquait les opinions philosophiques des grands philosophes orientaux et présente en même temps ses propres opinions philosophiques. Mais ce qui a fait de Dinani un philosophe bien connu à notre époque, c'est qu'il a donné un coup d'envoi à la renaissance de la philosophie de l'illumination et à la relecture de la sagesse de l'ancien Iran. Dinani a participé à de nombreux séminaires et conférences nationaux et étrangers et a écrit de nombreux articles et ouvrages dans le domaine de la philosophie et des études religieuses. En 1991, il a été honoré du titre de la principale figure de la philosophie lors de la première édition de la conférence des figures scientifiques célèbres du pays. La plupart des étudiants diplômés de l'Université de Téhéran en philosophie ces 30 dernières années ont été les élèves du professeur Dinani. Bien entendu, d'autres étudiants ont suivi ses cours pendant de nombreuses années à l'École théologique de Rome et dans diverses institutions privées. Dinani considère que la mesure et la compréhension de tout sont l'intellect, même la compréhension de Dieu par l'homme. Par conséquent, on peut considérer Dinani comme un philosophe rationaliste qui croit en l'illumination. En même temps, il est un penseur partisan de la philosophie transcendantale. Parallèlement, il connaît tous les aspects du mysticisme. Dans son livre intitulé « Livre de l'intellect et le verset de l'amour », Daftar-e Aql et Ayat-e-Ishq en persan, il discute de la place de la raison dans la sagesse et la philosophie et il défend la raison contre les croyances des acharites dont les croyances sont proches des traditionalistes. Dinani critique les pensées des philosophes et des mystiques de l'Est et de l'Ouest dans ce contexte. Il considère l'amour comme un processus de compréhension intellectuelle profonde et de désirs résultant d'une connaissance profonde. Pour lui, il n'y a pas de conflit entre l'intellect et l'amour, et aucun des deux ne nie l'autre. Selon lui, le véritable amour est cependant possible par la voie de la raison. C'est pourquoi certains penseurs contemporains appellent Dinani le soldat de la sagesse. Dinani est un philosophe dont les opinions lui sont propres et après des années d'études à l'école et à l'université et de réflexion, il a une connaissance et une maîtrise particulière de la philosophie orientale et occidentale. En revanche, il regarde le monde à travers la fenêtre d'une philosophie islamique. Le philosophe iranien n'accorde pas entre-temps la moindre importance aux facteurs géographiques et religieux pour le classement des philosophes d'Occident et d'Orient.
mais encore, il les divise finalement en deux catégories, Asharite et Mutazilisme. En tant que philosophe islamique, Dinani a été grandement influencé par Avicenne, Mollah Sadra et Sohrawardi, mais il a ajouté de nombreuses idées personnelles à la philosophie iranienne. Certains penseurs estiment que les livres tels que l'histoire de la pensée philosophique dans le monde islamique, livre de l'intellect et le verset de l'amour, sont les œuvres les plus importantes de ce grand philosophe, ce qui rend Dinani distingué de tous les penseurs contemporains. Dinani a écrit plus de 40 livres et recueille un certain nombre d'articles. Il a reçu 3 fois le prix du meilleur livre de l'année dans le domaine de la philosophie en Iran. Ses œuvres écrites et audiovisuelles sont si nombreuses qu'aucune institution n'a pu les recueillir. Ses œuvres audio et visuelles concernent ses discours pendant ses cours d'université et aux écoles théologiques, ses conférences, ses interviews et ses émissions de télévision. Pendant qu'il étudiait, il enseignait aussi. En fait, Dinani a pu prouver son statut en tant que grand érudit à partir des mêmes années qu'il était présent aux écoles théologiques de Nîmes-en-Var, d'Ispahan et de Rome. Pendant ses études, il enseignait diverses matières, dont la philosophie et la théologie, aux niveaux inférieurs du domaine. L'un des traits particuliers de Dinani, tant pendant ses études sur le terrain que pendant ses études à l'université, était le fait qu'il ne se limitait jamais à un cadre d'enseignement dicté. Par contre, il s'intéressait aux sciences du jour. Dans son parcours à l'école de théologie, il a appris la langue arabe. Son arabe était si éloquent qu'il publie par la suite plusieurs livres dans cette langue. Tous ses travaux sont très précieux, tant en termes de langue que de contenu. Lorsque Roland Hossein Ebrahim Dinani a intégré l'université, il a également commencé à apprendre l'anglais et a progressivement maîtrisé la littérature anglaise. Grâce à ses riches connaissances, Dinani a ainsi été en mesure de se rapprocher de la science moderne. Grâce aux langues étrangères qu'il avait apprises, il est parvenu à consulter des sources étrangères, à utiliser les théories et les sujets les plus récents dans son enseignement pour éduquer les étudiants, qui sont toutes et tous considérés comme des figures intellectuelles dans le monde d'aujourd'hui. Le choix d'une nouvelle méthode d'enseignement universitaire lui a valu une grande popularité auprès du public. Son expression et son style d'enseignement étaient tels que chacun était fasciné et apprenait beaucoup de ses enseignements philosophiques et mystiques.
Thank you.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعمة